L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Radio.
Merci d'être là. Votre rendez-vous dédié aux nouvelles technologies, c'est tous les week-ends sur BFM Radio avec Mathilde Christiani qui est là. Antoine Cyr sera là aussi dans quelques instants pour le crash test, chers amis. Dominique Piotet depuis San Francisco pour son Silicon Carnet, mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanet, comme chaque semaine, avec Renaud-Edouard Barrault, Mathilde et moi-même, on va s'intéresser à Second Life. Oui. Second Life est-il toujours vivant? Parce que c'est vrai qu'on en parle quand même de moins en moins. Ouais. Et même dans cette émission.
Oui, et on en parle en général en mal, en disant oui, moins de dollars échangés. C'était ça en fait le problème, c'est que tout le monde pensait que ça allait être une sorte de cash machine et tout le monde allait se retrouver dessus. Et puis
oui, ou peut-être une application très très grand public, alors que finalement c'est peut-être pas forcément le cas.
Bah, c'est vrai que on se demandait finalement si ça servait à quelque chose. Et puis depuis quelques temps, il y a une espèce d'avalanche. Et c'est pas Mathilde qui va me contredire. Voilà, c'était
des fois,
le mot.
Les mots
viennent pas.
Et voilà, ça arrive.
Ils se bousculent. Et c'est vrai que Mathilde, elle en écrit des articles sur Second Life aussi. Et là, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de trucs. Il y a l'Université de Toronto qui a sorti une étude sur le fait que finalement, dans Second Life, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en général pour les étudiants. C'était pour les étudiants en médecine, pour des simulations virtuelles, pour aider à virtualiser pas mal de choses. Il y a aussi, en Nouvelle-Zélande, il y a des cours qui viennent de commencer pour les étudiants pour apprendre ce que c'est que la naissance. Et on a vu aussi une autre chose, c'est Saint-Gobain Glacis qui a envoyé un petit communiqué en disant bah voilà, Saint-Gobain est toujours sur Second Life, on plante des arbres en plus après dans le réel, et puis aussi la maison de l'astroparticule qui s'est lancée sur Second Life il y a pas longtemps. Donc pour parler de tout ça, nous avons Étienne Parizeau qui est professeur à l'université Paris 7 et qui est engagé dans ce projet de la maison de l'astroparticule. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Et nous avons aussi Richard Malter qui est chef de projet chez Stonefield InWorld, qui a travaillé du sol au plafond l'île de Saint-Gobain Glacis. Bonjour.
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 Alors Étienne, on va commencer avec vous. La maison de l'astroparticule, c'est quoi l'intérêt pour des universités, pour des laboratoires de recherche de se mettre sur Second Life?
Bah écoutez, l'intérêt c'est d'être au niveau des technologies actuelles. C'est le même intérêt aujourd'hui de se mettre sur Second Life que l'intérêt qu'il y avait il y a 15 ans de se mettre sur Internet. Hein. C'est simplement d'offrir un panel global d'informations sur ce qu'on fait en recherche, en enseignement, etc. Mais aussi de donner aux gens la possibilité de voir les projets sur lesquels on travaille de façon bien plus directe, bien plus réaliste, qu'en consultant des pages web linéaires, deux dimensions, et en voyant des photos, des satellites. Pourquoi ne pas faire directement les satellites en 3D, permettre aux gens de tourner autour, de les regarder sous toutes les coutures, d'accéder de la même façon que sur un site web à toutes les ressources multimédias possibles, mais simplement d'être avec les objets, et puis surtout, une autre dimension évidemment d'un outil comme Second Life, c'est la possibilité de rencontrer des gens, de leur parler directement, d'interagir avec les chercheurs, avec les enseignants quand on est étudiant, ou de faire des communautés d'étudiants, des communautés de chercheurs. Voilà, c'est tout ça qui nous intéresse. La possibilité aussi, bien sûr, de faire des conférences à distance via Second Life.
Ça
peut éviter des déplacements, et puis de se présenter des objets 3D qu'on fabrique plutôt que s'envoyer des photos, quoi.
Oui, voilà. Mais alors ça, je suis d'accord, c'est la théorie. C'est vrai que Second Life a un potentiel énorme, mais est-ce qu'en réalité, en pratique, est-ce que vous êtes satisfait du résultat depuis que vous avez lancé la maison?
Bah écoutez, ça a été lancé la semaine dernière, ou il y a 10 jours, donc je pourrais pas. Nous étions très très satisfaits du lancement lui-même, qui a accueilli énormément de gens, à la fois parce qu'on a fait un lancement en mixed reality, comme on dit, c'est-à-dire à la fois in-world, dans Second Life, et puis à l'APC, en l'occurrence, mon laboratoire à l'Université Paris 7. Il y avait énormément de gens qui étaient effectivement fascinés par les possibilités à la fois de l'outil, mais aussi par l'apport de ces objets 3D qu'on peut créer en direct. On avait en fait, on a ouvert la maison de l'astroparticule à l'occasion du lancement du satellite Planck, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, pour faire de la cosmologie. Et on avait reproduit, d'abord on a reproduit une Ariane 5, et puis on a reproduit le satellite, et ça nous a permis d'expliquer aux gens comment ça fonctionnait, etc., en le montrant directement sur un objet en trois dimensions. Alors, vous me posez la question sur le retour, je dirais qu'on verra, c'est encore, effectivement, on est un petit peu les premiers premiers à se lancer dans cette aventure en France, mais vous savez, aux États-Unis, des tas d'universités, sinon toutes, d'ailleurs, sont sur Second Life, travaillent régulièrement, donnent des cours virtuels en permanence, travaillent aussi avec les chercheurs, et ça fonctionne très bien.
Mais est-ce que vous allez mettre justement des gens à plein temps sur, parce qu'en fait le problème c'est l'animation en général, c'est-à-dire que quand il n'y a personne dans les îles, personne ne vient. Donc est-ce que les chercheurs vont être menottés à leur ordinateur pour faire de l'animation sur Second Life?
Ben vous avez raison, c'est un des problèmes importants à ces mondes-là, c'est que quand vous visitez un site web et qu'il n'y a personne qui regarde le site web en même moment que vous, ça vous pose aucun problème. Vous regardez la page qui vous intéresse. Dans Second Life, on a parfois envie effectivement de profiter de cette dimension supplémentaire qui est l'échange entre les gens. Si vous allez dans un site où il n'y a personne, ça ne vous empêche pas de profiter des ressources qui sont présentées. Simplement, c'est vrai que c'est un plus s'il y a du monde. Donc, je pense que ce qu'on va faire à l'université et dans les laboratoires de recherche, c'est organiser des permanences, par exemple. On va dire que de telle heure à telle heure, chaque semaine, vous pouvez rencontrer des chercheurs, poser vos questions à vos professeurs ou dispenser des cours. Donc ça permet, de, si vous voulez, de faire une animation ponctuelle fixe où on sait qu'il y aura du monde. D'accord. Et puis, par ailleurs, l'idée et l'espoir, une fois que tout ça va prendre, c'est que les utilisateurs s'organisent en communauté, en réseaux sociaux, c'est très à la mode, et puis se retrouvent, que faire des lieux où les gens ont envie de se retrouver et d'échanger. Voilà.
D'accord. Richard, est-ce que vous aussi, pour Saint-Gobain, est-ce que vous avez prévu de l'animation, ou c'est juste, finalement, vous dites, voilà, vous avez fait une île et ça va très bien marcher pour la communication?
Alors, donc, l'approche de Saint-Gobain était justement, d'une part, pour expérimenter, puisque Second Life, comme l'indiquait professeur Parizeau, est un lieu d'expérimentation. En fait, des univers 3D, c'est la meilleure plateforme pour essayer d'innover, de comprendre une révolution qui arrivera, quand elle arrivera, difficile de le deviner. Et Saint-Gobain avait donc ce souci de tester, mais aussi de rentrer en communication. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils vendent du verre de haute technologie. Donc déjà, il y avait un souci de montrer quelque chose qui est invisible. Et c'est vrai que la 3D s'y prête bien. Vous faites une animation en 3D d'un verre haute technologie. Il y a moyen de voir un plan de coupe.
C'est spectaculaire. Oui.
Vous faites tomber des gouttes d'eau, vous voyez comment elles vont réagir. Mais c'est vrai que ça s'inscrivait aussi dans un dialogue et un échange avec ses clients. Parce que Saint-Gobain équipe beaucoup de ménages en France et en Europe et dans le monde. Et c'est vrai que les clients l'ignorent. Et c'était intéressant pour eux aussi de rentrer en contact d'une population qui est souvent sensible aux problématiques environnementales et d'échanger, d'essayer de recueillir du feedback, des informations pour la suite.
Mathilde?
Moi, la question que je me pose, c'est que, vous parlez tous les deux du fait Monsieur Parizeau, d'être en contact avec les chercheurs, vous, donc avec les clients. Donc, pourquoi aller sur Second Life si finalement c'est pour rester en réseau fermé? Maintenant, il y a pas mal d'outils 3D qui permettent de développer sur son site.
Second Life ouvre la porte en fait au monde entier, parce qu'aujourd'hui, malgré les critiques qu'on peut entendre, c'est un univers qui continue d'acquérir des utilisateurs, qui mûrit aussi parce qu'il date de 2003, donc c'est une plateforme qui est stable, donc on connaît très bien les limites et les qualités, et donc c'est plus évident d'aller sur Second Life pour créer, innover et tester donc des nouvelles manières d'échanger, de communiquer, que d'aller partir, comme vous disiez, sur des nouveaux outils, finalement, qui vont pas avoir encore cette notion communautaire. Et Second Life apporte aussi ce dont Monsieur Parizeau parlait, l'aspect communautaire, UGC, donc généré par les utilisateurs, où finalement les gens qui sont intéressés peuvent participer vraiment activement aux problématiques. Et pour répondre vraiment à votre question, il y avait aussi dans le cadre de l'initiative de Saint-Gobain, il y avait un cycle de conférences qui était prévu, justement pour pouvoir échanger sur les notions de développement durable, que les gens comprennent en fait dans quelle perspective se place l'entreprise.
D'accord. Monsieur Parizeau, est-ce que d'après vous Second Life est un outil parfait pour faire justement des conférences? Est-ce que c'est finalement pas la classe virtuelle idéale?
Oui, tout à fait. Il me semble effectivement. Je rebondis justement sur ce que vous disiez avant. Est-ce que c'est pas un monde fermé? Pourquoi aller s'enfermer? Au contraire, justement, ça m'est arrivé de donner quelques conférences effectivement dans Second Life. Il y a des Américains, des Japonais, des Allemands. Les gens viennent et justement. Des conférences qu'on peut donner comme ça, je dirais dans la vraie vie, ça va pas vraiment mobiliser les gens parce qu'il faut se déplacer, c'est un peu compliqué, si on est loin, n'en parlons pas, etc., les transports. Là, vous êtes chez vous, vous êtes même en train de travailler, vous savez qu'il y a une conférence qui vous intéresse, vous mettez Second Life soit en tâche de fond, soit sur votre écran principal, et puis vous suivez la conférence, vous pouvez interagir, vous posez les questions à l'intervenant qui vous répond en direct. Et donc, c'est vraiment un outil formidable pour faire des téléconférences. Et à l'heure où il faut réduire un petit peu les émissions de CO2, je pense que ça peut même être très utile pour l'environnement.
Richard ?
Oui, je pense qu'il est important aussi de préciser aux gens qui connaissent pas Second Life que depuis maintenant plus d'une année, la VOIP, donc la voix, est supportée par Second Life. Du coup, on arrive à une communication qui est très naturelle. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir s'exprimer à tous. Bien sûr, il y a la possibilité de communiquer en direct, en privé. Mais c'est vraiment cette fonction voix qui a vraiment révolutionné la donne et qui a changé un petit peu la phase de Second Life, qui est passé donc d'un jeu vidéo finalement à un outil qui a été beaucoup récupéré par le monde de l'enseignement public en général, puisqu'on parlait tout à l'heure des universités américaines qui sont très vite emparées de l'outil pour communiquer au-delà des frontières de leur fac.
Mais cela dit, le soufflet médiatique est un peu retombé en France. Hein. On parle de moins en moins de Second Life. Alors, on est tous passés à Facebook, à Twitter, etc. Est-ce que c'est pour vous embêtant le fait justement que ça devienne peut-être un outil réservé à une certaine frange de la population, à des internautes aguerris ou à des personnes plus scientifiques, entre guillemets ?
Alors, je pense sincèrement que c'est aussi une question de maturité, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui est très nouveau, des usages nouveaux. Et ce qui se passe, c'est que certes, ça peut être regrettable de penser qu'il n'y a qu'une partie de la population, mais c'est certainement la population idéale pour entreprendre, pour comprendre et pour avancer, pour arriver au grand public le jour où celui-ci sera prêt.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup, Étienne. Oui, juste un dernier mot. Alors. Un dernier petit mot. Allez-y.
Non, mais il faut regarder un peu l'histoire du web. Effectivement, l'internet standard, on sait bien que ça commençait par la communauté scientifique et puis regardez
c'est aujourd'hui. Voilà. D'accord. Mais écoutez, merci Étienne Parizeau. Donc on peut vous retrouver donc attaché à votre ordinateur sur la maison de l'astroparticule. Et merci Richard Malter, chef de projet chez Stanfield Hillworth, qui est partenaire Gold de Linden Lab et qui a réalisé l'île de Saint-Gobain Glacis.
Merci à tous les deux et vous restez avec nous sur BFM Radio. Suite et fin de l'atelier, dans une minute, le Silicon Carnet, le crash test d'Antoine. À tout de suite.